13h à Paris, midi en temps universel. Bienvenue à l'écoute de la Radio du Monde.
Antoine Galen.
À la une, chaque minute compte en Birmanie. Après le séisme de magnitude 7,7 qui a tué plus de 1700 personnes, les secours s'organisent. La junte birmane a lancé un appel à l'aide internationale. Mais pour l'instant, les secours birmans sont en première ligne. Inquiétude pour plusieurs dizaines de moines qui passaient un examen religieux à Mandalay lorsque la terre a tremblé. On y reviendra. Dans ce journal également, l'avancée des négociations entre le Hamas et Israël. Le parti islamiste palestinien a dit accepter la proposition des médiateurs de restituer 5 otages. Israël en demande le double. Les Israéliens sont descendus dans la rue pour faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il accepte la voie des négociations. On fera le point avec notre correspondant. Et puis Kharkiv, sous les drones en Ukraine la nuit dernière. 111 drones kamikazes russes ont été lancés par Moscou sur l'ensemble du pays. Volodymyr Zelensky appelle les alliés de l'Ukraine à mettre plus de pression sur la Russie. Au moins 1700 morts et 3500 blessés 2 jours après le violent séisme de magnitude 7,7 qui a touché la Birmanie et la région. La junte birmane a lancé un appel à l'aide internationale. Autre appel, celui de la Croix-Rouge pour recueillir plus de 100 millions de dollars. Sur place, toujours très peu de témoignages en provenance de la Birmanie. Les télécommunications restent très difficiles. Après le séisme qui a bousculé le centre du pays, des répliques se font toujours sentir sur place et compliquent encore un peu plus la recherche des survivants. L'Inde et la Chine ont dépêché des équipes sur place. L'aide internationale s'organise, mais en attendant, les secours birmans sont en première ligne et débordés. Vincent Souriau, bonjour.
Bonjour.
De très nombreuses victimes restent coincées sous les décombres. Inquiétude, par exemple, pour plusieurs dizaines de moines qui passaient un examen religieux à Mandalay lorsque la terre a tremblé.
Oui, ils étaient au moins 180. Regroupés dans ce bâtiment de Mandalay lorsqu'il s'est écroulé au moment du séisme. À ce jour, d'après nos confrères de l'agence France Presse présents sur place, 21 de ces moines ont pu être extraits vivants. 13 corps sans vie récupérés par les secouristes. Plusieurs dizaines de victimes restent prises au piège, ensevelies depuis plus de 48 heures. Et chaque minute qui passe réduit bien sûr les chances de trouver des survivants. Les témoins signalent que l'odeur des corps en décomposition envahit déjà les lieux, alors que dans toute la ville, comme dans tout le centre de la Birmanie, les équipes d'urgence cherchent à repérer des signes de vie dans les montagnes de gravats, sous les hôtels, sous les écoles, les mosquées, les monastères. Mais l'équipement reste rudimentaire. Pioche et marteau-piqueur dans les meilleurs cas. Les sauveteurs manquent de chiens renifleurs, de sonars pour sonder les zones sinistrées. L'ONU s'inquiète aussi d'un manque absolu de médicaments, alors que d'après le coordinateur des Nations Unies pour l'aide humanitaire en Birmanie, près de 20 millions de personnes pourraient avoir été affectées de manière directe ou indirecte par les conséquences de ce séisme.
Merci Vincent Souriau du service international d'RFI. La libération du journaliste suédois détenu en Turquie est une priorité absolue, déclaration ce dimanche de la ministre suédoise des Affaires étrangères. Plusieurs dizaines de journalistes et près de 2000 manifestants ont été arrêtés depuis l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, opposant numéro 1 de Recep Tayyip Erdogan. Droit, loi, justice, le slogan scandé ce samedi par des centaines de milliers de personnes sur la grande place de Maltep pour soutenir l'opposant. Le maire d'Istanbul, candidat du CHP, devait se présenter à l'élection présidentielle de 2028. Au Proche-Orient, Benjamin Netanyahou dit que les dirigeants du Hamas à Gaza seront autorisés à partir s'ils déposent les armes. La défense civile palestinienne, elle, fait état de 8 morts, dont des enfants dans une frappe israélienne sur une maison et une tente abritant des déplacés à Khan Younes. Et ce, au premier jour de l'Aït al-Fitr, qui marque la fin du Ramadan. Du côté des négociations, le Hamas accepte la proposition des médiateurs de restituer 5 otages. Israël en demande le double. On retrouve notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul, bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Les Israéliens sont descendus en nombre dans la rue hier soir pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il accepte la voie de la négociation.
Oui Vincent, le Hamas accepte une nouvelle proposition de trêve présentée par les médiateurs égyptiens, qatariens, mais surtout américain. L'organisation se dit prête à libérer 5 otages. De son côté, à l'issue d'une réunion sécuritaire hier soir, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué avoir transmis une contre-proposition, et cela en plein accord avec les États-Unis. Israël demande la libération de 10 otages, rien de concret donc à ce stade, mais une avancée certaine, reconnaît un responsable israélien. Le tout serait accompagné d'une trêve de plusieurs semaines. Selon le site d'information américain Axios, une des contreparties de cet accord serait une déclaration du président américain, un appel au retour au calme à Gaza lancé par Donald Trump et la reprise de négociations en vue d'un cessez-le-feu permanent. Colère des familles d'otages, c'est le moment qu'a choisi Benjamin Netanyahou pour s'absenter du pays. Il s'envole ce mercredi pour un long week-end en Hongrie, son premier voyage hors États-Unis depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à son encontre.
Merci Michel Paul en correspondance à Jérusalem. C'est une nouvelle étape en Syrie. Le président par intérim Ahmed al-Shara a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement ce samedi sans Premier ministre, mais avec une femme chrétienne aux affaires sociales et au travail. Il compte également un ministre druze, un autre kurde et un anaouite. Les 23 ministres ont prêté serment lors d'une cérémonie au palais présidentiel. En Ukraine, la nuit dernière, 111 drones kamikazes russes ont été lancés par Moscou sur l'ensemble du pays et la ville de Kharkiv au nord-est du pays qui a une nouvelle fois été en proie à une attaque massive dans cette ville qui avant 2022 était la deuxième plus peuplée d'Ukraine. On compte 2 morts et 30 personnes blessées suite à ces frappes qui interviennent alors que le président Volodymyr Zelensky appelle les alliés de l'Ukraine à mettre plus de pression sur la Russie et à condamner plus fermement les frappes sur les civils qui continuent quotidiennement à affecter le pays. Les précisions de notre correspondante Emmanuelle Chaz.
C'est la troisième fois en mars que Kharkiv essuie une pluie de drones russes. La nuit dernière, 6 d'entre eux se sont écrasés en plein centre-ville. Vyacheslav Panchenko, un résident qui a survécu à l'attaque, est sous le choc.
Vous voyez que c'est un secteur privé, il n'y a pas d'usine ou d'entrepôt ici, pas même un baril d'essence. Je ne comprends pas pourquoi ce drone est venu s'écraser ici. Des gens ont été blessés, les maisons de citoyens ordinaires de notre ville ont été touchées, c'est très triste.
Yevgen Shevchenko, lui, a échappé de justesse à la frappe, mais sa femme et sa fille ont été blessées.
Tout le plafond est tombé dans la maison. Ma femme était sous une poutre transversale et notre fille était à côté d'elle, complètement ensevelie. Alors, mon voisin et moi l'avons déterrée, l'avons sortie de là. Et autour de nous, tout était en feu.
La fille de Yevgen, âgée de 15 ans, a été gravement blessée et hospitalisée. En plus des 2 morts et des 30 blessés, ces frappes sur Kharkiv ont endommagé un hôpital militaire, plusieurs bâtiments résidentiels et des bureaux. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
L'Organisation mondiale de la santé coupe son budget de près de 20%, conséquence du retrait américain, le principal contributeur de l'OMS. Un manque à gagner de près de 600 millions de dollars en 2025. Mais l'agence de l'ONU n'a pas d'autre choix, ce sont les mots du directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Une décision dans un contexte délicat, car l'organisation avait réduit son budget de 5,3 à 4,9 milliards de dollars pour 2026-2027. C'est inadmissible après les ministères français de l'économie et du commerce qui ont dénoncé une atteinte aux valeurs européennes. C'est aux patrons, des patrons français, de réagir à la lettre envoyée par l'ambassade américaine. Elle demandait aux entreprises françaises et européennes de renoncer à leur politique anti-discrimination. Invité par nos confrères de LCI, Patrick Martin a déclaré qu'il était hors de question d'y renoncer. On écoute.
C'est inadmissible. C'est inadmissible parce que ça traduit une dérive du gouvernement américain, du président américain lui-même, qui veut signifier une emprise sur l'économie mondiale et sur les valeurs, en l'occurrence les valeurs européennes. On ne peut pas s'incliner devant cette oukase, en quelque sorte, même si ça s'applique plutôt à un autre pays. Nous avons des valeurs, nous avons des règles, nous devons les respecter. Et j'observe d'ailleurs que l'Union européenne elle-même, quand il y a eu des tensions de cette nature en son sein, dans certains pays membres de l'Union européenne, l'Union européenne a rappelé ses valeurs, a rappelé ses règles. Typiquement, en France, nous avons des règles que nous partageons infiniment sur la mixité, vous l'avez évoqué, les lois Copé-Zimmermann, la loi Rixin, dorénavant, pour les comités de direction protection des entreprises de plus de 2000 salariés. Nous avons des règles infiniment respectables, et à vrai dire, on les appliquerait quand bien même elles n'existeraient pas, par exemple pour l'inclusion des handicapés. Il est hors de question d'y renoncer.
Un propos recueilli par Claire Fage, RFI, 13h10 à Paris, midi 10 en temps universel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.